Bonjour à toutes et à tous. Il n'y aura pas de plantée de bâtons à Noël dans les montagnes françaises. Le gouvernement a tranché. Si les stations de ski peuvent ouvrir, les remontées mécaniques, elles, resteront à l'arrêt. Une nouvelle plutôt mal accueillie par les professionnels du secteur qui voient leur avenir devenir chaque année plus incertain. Avec le réchauffement climatique et la baisse de la fréquentation, le modèle économique des stations françaises est de moins en moins rentable. La filière ski doit se réinventer et avec elle, l'industrie du tourisme tout entière, frappée depuis 10 mois par une crise sans précédent. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour nous accompagner dans notre périple entre mer et montagne, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 invités. Laurent Tissot, historien, spécialiste du tourisme et professeur émérite à l'université de Neuchâtel en Suisse. Emmanuelle Georges, chercheuse en économie et gouvernance des territoires touristiques à l'INRAE de Grenoble. Et Vangelis Panayotis, directeur des opérations de MKG Group, un cabinet de conseil spécialisé dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Une émission que vous pouvez retrouver comme toutes celles qui précèdent sur franceculture.fr et sur la application Radio France.
Concernant les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Les décisions seront finalisées très prochainement.
Oh, j'espère que ça ne va pas durer longtemps, je vais être en retard moi.
Mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens.
On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
On est avant tout, toute chose, des gens prudents et des gens qui ne font pas n'importe quoi. Ce qui nous interpelle par rapport à la décision du président, c'est qu'il a pris une décision par rapport à l'Italie qui reste fermée, on sait pourquoi, par rapport à l'Allemagne qui a beaucoup moins de stations, très peu de stations qui restent fermées pour l'instant. Par contre, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne ou Andorre, n'ont pas décidé de fermer.
Voilà Emmanuel Macron et Jean-Luc Bock, maire de La Plagne Tarentaise et président de l'Association nationale des maires de stations de montagne, dans un montage élaboré par notre réalisatrice Anne de Pelchin. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors les professionnels du secteur ont longtemps espéré une réouverture des stations de ski à Noël. La décision a finalement été prise de fermer les remontées mécaniques. C'est un coup dur pour la filière, Emmanuel Georges.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est un coup dur pour l'ouverture de la saison, dont on sait que globalement, elle représente en tous les cas la période de Noël peut représenter entre 15 à 20% du total de l'activité d'une saison de station. Je pense qu'il y a eu depuis nombreux jours beaucoup de réactions de l'ensemble des acteurs, bien sûr les acteurs pivots des stations, les gestionnaires de remontées mécaniques, les maires, et la mise en avant de tout un ensemble d'indicateurs en termes d'emploi, de retombées, et bien sûr, je dirais, de vie dans ces stations qui montrent que c'est une réalité pour beaucoup de territoires de montagne.
C'est une filière qui a déjà souffert l'an dernier de la pandémie, Vangelis Panayotis.
Oui, c'est sûr que c'est, en plus, c'est une filière qui a besoin d'investissements lourds et importants. Donc, les périodes où ça fonctionne bien, c'est aussi des périodes qui permettent de pouvoir réinvestir et maintenir un niveau de compétitivité des équipements par rapport à nos voisins. Mais c'est vrai que les périodes de grève, les périodes d'incertitude ont toujours un impact négatif, surtout qu'on a une saison qui est très courte à la montagne.
L'année dernière, les fréquentations pour la saison 2019-2020 avaient donc déjà baissé de 16% parce que les stations avaient dû fermer un mois et demi avant la fin de la saison, dès la mi-mars. Laurent Tissot, une mauvaise nouvelle pour cette filière du ski aujourd'hui?
Oui, à cette différence près qu'en Suisse et en Autriche, visiblement, d'après ce que j'ai pu entendre dernièrement, hier, les stations de ski resteront ouvertes. Et il y a des cris de joie d'un côté, mais il y a beaucoup de gêne parce qu'on craint finalement d'entraîner une concurrence déloyale avec les stations françaises, italiennes et allemandes, mais surtout françaises. Et j'entendais encore le maire de Chamonix, enfin qui est proche de la Suisse, qui était furieux et qui je peux le comprendre. En Suisse, il y a un sentiment de gêne de voir tout d'un coup des cars et des voitures de Français débarquer dans les vallées suisses et voilà, c'est un peu quand même assez étonnant et un peu quand même, je dirais, ridicule, parce que on sait que le virus n'a pas de passeport, il passe les vallées comme ils veulent.
On va voir effectivement si une coordination européenne est possible, on va y revenir, mais d'abord c'est la méthode qui est beaucoup dénoncée aujourd'hui. Emmanuel Georges, les professionnels de la montagne dénoncent la décision du président, alors même que les concertations avec le Premier ministre Jean Castex devaient se poursuivre pendant une dizaine de jours. C'est aussi cela qui a choqué.
Bah écoutez, je ne vais pas commenter la décision du gouvernement. C'est clair qu'il y avait une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière qui a été engagée ces derniers temps. Je pense que ça souligne la vivacité des réactions. Ça souligne à la fois, en tous les cas, pour la situation française, que ces stations représentent une vraie réalité économique et sociale dans beaucoup des territoires de montagne, donc avec une forte dépendance, alors avec des intensités variables, mais en tous les cas une forte dépendance à cette activité neige et plus largement touristique. Donc qui dit arrêt dit interrogation forcément sur l'avenir de ces territoires. Et puis je pense que le fait d'ouvrir malgré tout les stations sans l'ouverture des remontées mécaniques, c'est aussi un enjeu important dans les prochains jours de la capacité de ces stations à offrir des activités, des prestations pour les touristes qui vont venir, de manière à leur permettre un séjour malgré tout, au-delà de la non-ouverture du domaine skiable.
Mais le manque à gagner, Emmanuel Georges, reste considérable. C'est principalement grâce aux remontées mécaniques que les bénéfices se font.
Alors effectivement, le produit d'appel d'une station reste le domaine skiable, on le sait, même si les clientèles ont depuis quand même maintenant pas mal de temps évolué dans leur pratique, avec des gens qui skient moins longtemps, moins souvent dans un séjour, donc la nécessité de diversifier aussi l'offre touristique offerte par ces destinations. Mais effectivement, on le sait, entre la période de Noël et celle des vacances de février, eh bien c'est l'essentiel de la saison d'une station qui se fait avec ces deux périodes principales. Donc c'est un vrai manque à gagner déjà sur la période de Noël et des vacances d'hiver.
Alors comment expliquer cette décision de fermer les remontées mécaniques, Laurent Tissot? C'est parce que les stations sont des clusters, on l'avait constaté l'an dernier.
Oui, il y a eu des cas clairs en Italie, en Autriche, où on voyait des masses de skieurs attendre devant les remontées sans masque, et ça a été complètement des rassemblements qui ont entraîné quand même beaucoup de contamination. Donc là, on voit un pouvoir politique qui est quand même pris entre les tenailles, mais sûr de ce qu'on appelle des préoccupations sanitaires qui devraient être prioritaires et des préoccupations économiques qui sont bien sûr extrêmement importantes pour beaucoup de régions, qui font vivre des localités. Je ne sais pas s'il y a des réponses. Visiblement, maintenant, on en sait un peu plus qu'il y a une année. Donc, on devrait être en mesure, peut-être, de coordonner mieux ces décisions. Mais, les frontières politiques étant ce qu'elles sont, je vois pas comment on pourra coordonner tout ça de façon un peu judicieuse, qui n'entraîne pas une troisième vague, qui serait quand même incroyable.
Et incroyablement dommageable. Il faut souligner aussi que les départements de Savoie et de Haute-Savoie font partie des départements les plus touchés par la pandémie. C'est aussi ce qui justifie cette décision. Mais alors, effectivement, ce qui pose problème, c'est évidemment la division en Europe sur l'ouverture des stations pendant les fêtes. Une division qui n'est pas sans rappeler la rouverture des frontières en ordre dispersé avant l'été, Vangelis Panayotis.
Oui, c'est sûr que tout le monde attendait beaucoup de l'Europe dans cette période, parce que il faut aussi le rappeler, l'essentiel des clients, en règle générale, quand on parle de tourisme, et en particulier quand on parle de montagne, ça reste des clientèles domestiques, nationales, et celles de nos voisins européens. Donc ce sujet de l'ouverture ou de la circulation des frontières entre États européens était fondamental et nécessaire à tous les acteurs économiques de la filière. Donc on a vu que cet été, ça s'est plutôt bien passé pour la France. Force est de constater que pour cet hiver, ça a l'air un peu moins bien engagé.
En l'occurrence, l'Allemagne et l'Italie sont effectivement d'accord pour fermer leurs stations, mais l'Autriche a l'air assez réticente, Emmanuel Georges, et cela parce que pour l'Autriche, c'est une manne financière particulièrement importante, les sports d'hiver.
Oui, tout à fait. Je pense qu'à l'échelle internationale, très souvent en matière de réussite des remontées mécaniques, la France est souvent au coude à coude avec l'Autriche pour ce qui concerne les pays européens. Donc c'est un concurrent, principal de l'activité des sports d'hiver, avec bien sûr d'autres pays dont on a déjà parlé. Mais il est clair que l'Autriche est souvent le pays qu'on met en perspective quand on parle des stations françaises.
Et en même temps, l'année dernière, un certain nombre de touristes allemands ont été justement contaminés dans des stations de ski autrichiennes. Alors, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui, Laurent Tissot, une coordination européenne sur le sujet ?
Je ne crois pas, parce que peut-être qu'il faut mettre en évidence que, et pour l'Autriche, et pour la Suisse, le ski, les sports d'hiver sont considérés comme des industries nationales, d'intérêt national. Donc c'est pas uniquement régional. On a parlé en France, c'est les Alpes savoyardes, c'est les Pyrénées. En Italie, c'est les Alpes italiennes. En Espagne, c'est tout sur les Pyrénées. Donc on a des configurations très régionales qui n'ont peut-être pas le poids qu'ont en Suisse et en Autriche les lobbies qui défendent l'idée qu'il faut absolument garder ouvertes ces stations. Et en Suisse, la décision a été prise, je l'ai écouté hier, par le ministre de la Santé qui a dit on ouvre, il y a pas de discussion, on est conscient que si on dit on ferme ces stations, ça va être une catastrophe nationale, dès lors que le PIB est atteint des niveaux qui sont incroyablement hauts si l'on se place à cette échelle-là. Et peut-être là, c'est une différence d'appréciation que peut-être des petits pays alpins ont par rapport à des grands pays qui ont peut-être d'autres offres en termes touristiques.
Et alors effectivement, il y a eu un arbitrage entre la question sanitaire et la question économique, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont des emplois, et particulièrement des emplois saisonniers, qui vont être touchés par cette décision, Emmanuel Georges, même si le gouvernement a annoncé que les saisonniers sans activité pourront bénéficier d'un revenu mensuel minimum de 900 euros, ça c'est ce qu'a annoncé la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
Oui, une station, on le sait, c'est un marché du travail très particulier, bien sûr avec des emplois dans la filière des remontées mécaniques pour faire tourner le domaine skiable, et puis tout un ensemble de possibilités d'emploi dans les autres activités de commerce, de restauration, de pratiques touristiques. Donc très souvent, on avance le chiffre de 120 000 emplois pour cette filière, et donc des emplois directs ou indirects. Donc derrière, c'est évidemment des attentes importantes pour un certain nombre de travailleurs saisonniers qui viennent faire la saison ou qui sont également des saisonniers plus locaux pour occuper ces emplois.
Et là où cette décision est d'autant plus mal prise dans la filière ski, c'est qu'il y avait déjà, avant même que cette décision soit prise, une inquiétude par rapport au fait que la filière va souffrir cette année du manque de touristes étrangers, alors que c'est une clientèle essentielle pour certaines stations, Emmanuel Georges.
Oui, alors là, on rentre aussi dans la grande diversité des stations qui sont les nôtres au niveau français, avec environ 350 sites, et des degrés d'internationalisation des clientèles des stations qui sont très variables, et tout un ensemble de grandes stations notamment qui sont très liées et peut-être un peu dépendante aussi de cette clientèle étrangère. On l'avait vu au moment du Brexit avec une partie de la clientèle britannique. Et donc là, le fait de ne plus mobiliser cette clientèle qui, dans certains cas, est évidemment un très fort manque à gagner. C'est moins le cas dans d'autres stations qui vont fonctionner beaucoup plus avec de la clientèle française, avec des bassins de chalandise plus ou moins larges, et voire de la clientèle de proximité, donc de l'excursionnisme, et qui, du coup, leur donne des capacités peut-être de réaction un peu différentes que leurs grandes consoeurs très internationales.
L'an dernier, les touristes étrangers dans les stations de ski représentaient un quart de la fréquentation totale, Vangelis Panayiotis, mais cela dépend évidemment beaucoup, comme le dit Emmanuel Georges, de la taille de la station et de sa stratégie économique.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a plusieurs montagnes, c'est très contrasté. Si vous prenez les Vosges, le Jura, vous allez avoir plutôt un bassin de population locale, nationale, qui va utiliser les équipements qui sont mis à leur disposition. Mais il y a aussi tout le, et on l'a vu cet été, toute la diversification que peuvent faire ces stations de montagne. Parce qu'on parle de stations de ski, on pense beaucoup à la haute montagne, mais il y a également tout ce qui est les stations de montagne, et une destination comme Chamonix fonctionne quasiment à l'identique, que ça soit l'hiver ou l'été.
Alors on va parler de cette diversification, mais d'abord comment s'est développée l'économie des stations de ski en France? Écoutez cette archive de 1945, à l'époque où la montagne était davantage associée aux vacances d'été qu'aux sports d'hiver.
Cette année, 300 000 enfants partiront pour les colonies de vacances. Ceux-ci sont de petits Parisiens qui s'en vont vers la montagne. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois depuis 5 ans qu'ils quittent leur quartier. Voici Megève, voici la montagne et le grand air. Se lever devient un plaisir. Et quand on ouvre la fenêtre, on ne sent pas l'odeur des poubelles. On n'est pas gêné par le voisin d'en face. Le voisin d'en face s'appelle le Mont Blanc. De bain de soleil, mais attention, toujours la tête à l'ombre. Monsieur Billou, ministre de la Santé publique, vient dire bonjour aux petits bonshommes. Mais à peine le ministre a-t-il tourné les talons que les enfants reviennent vite aux choses sérieuses.
Voilà, une archive d'août 1945. Il faut attendre les années 1960, Laurent Tissot, et les différents plans neige pour que la pratique du ski se massifie en France.
Oui, oui, cette émergence, cette massification s'inscrit enfin dans ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, cette période incroyable de croissance économique, de changement aussi de consommation qui atteint non seulement les couches favorisées, mais un peu toutes les couches de la population. Il y a un revenu qui monte partout, enfin bref, un plein emploi qui permet à toutes les couches de population, et notamment aussi à des enfants, même de milieux défavorisés, de pouvoir jouir de vacances là à la montagne, mais aussi de vacances balnéaires. Peut-être que cette période des Trente Glorieuses est unique dans la mesure il y a ni d'antécédent ni de précédent, ni de périodes qui vont suivre avec un tel taux de croissance. Seule la Chine et certains pays peuvent encore aujourd'hui comparer, avoir des PIB comparables à ça.
Mais même alors, Laurent Tissot, pardon de vous interrompre, même alors, le ski reste quand même un sport pour les familles les plus privilégiées. Et aujourd'hui, il faut quand même souligner que c'est seulement 8% des Français qui partent au ski.
Oui, c'est juste, là, il y a un apprentissage qui peut-être n'a pas été fait partout, peut-être en France. En Suisse, il y a des écoles de ski qui s'adressent à tous les établissements scolaires. Donc, il y a peut-être une éducation, un apprentissage qui est beaucoup plus intensif en Autriche, en Suisse, que dans d'autres pays, et notamment la France. D'où le fait qu'en Suisse, vous n'avez pas ce genre de pourcentage. Mais il y a quand même, il reste que les vacances d'hiver, enfin, sont des vacances, peut-être c'est encore des a priori, qui s'adressent à des catégories de population qui peuvent s'offrir des équipements qui sont chers, des skis, des chaussures, des lunettes, des casques, etc. Ça peut vous amener à des montants extrêmement élevés que tout le monde ne peut pas s'offrir. Donc là, il y a encore un élément social clair qui joue.
Emmanuel Georges, sur cette massification de la pratique du ski, mais en même temps un sport qui en France reste un sport que peut s'autoriser seulement une partie de la population.
Disons que je pense qu'il y a vraiment eu cette période dont parle Laurent Tissot, de, notamment en France, hein, de ce qu'on appelle le plan neige dans les années 60, qui a abouti à vraiment créer une filière des sports d'hiver à l'échelle internationale, voulue, portée par le gouvernement français. Et puis peut-être, et encouragée aussi avec les classes de neige, tout cet apprentissage de la culture et de la pratique du ski, et plus largement de la montagne. Et puis depuis les années, je dirais fin des années 90, avec la fin de la création vraiment des stations en France, une évolution de cette fréquentation, les questions de manque de classes de neige aujourd'hui en France, et donc tout ce travail aussi sur les jeunes que mènent un certain nombre d'acteurs, particulièrement les conseils départementaux, qui essayent de proposer des offres pour, je dirais, faire revenir à la montagne et à la pratique du ski les jeunes, et les très jeunes notamment, qui sont au collège ou plus jeunes.
Oui, parce qu'il y a une baisse de fréquentation importante, en effet, chez les 15-25 ans. Comment est-ce qu'on l'explique, Emmanuel Georges? Est-ce que c'est principalement parce qu'effectivement, le ski, c'est trop cher?
Alors, je ne sais pas si c'est uniquement une composante financière qui est certainement indéniable. Il y a aussi une question, je dirais, d'apprentissage, telle que je viens de l'évoquer avec tout ce travail à mener dès le plus jeune âge. Peut-être aussi, et ça c'est plutôt les collègues qui travaillent sur les évolutions, les profils des clientèles, aussi un rapport à la montagne qui change, peut-être avec des pratiques différentes, et donc un besoin aussi de s'adapter à cette attente-là des clientèles. Pour autant, évidemment, que la dimension prix joue, mais des offres de stations, notamment de certaines catégories, qui sont là aussi pour répondre à ces attentes, et c'est sans doute un point qu'il faut renforcer.
Vangelis Panayotis, sur l'évolution de cette clientèle dans les stations de ski françaises.
Ouais, on parlait tout à l'heure, c'était mentionné par Laurent Tissot, qu'il y a eu cette période des 30 glorieuses qui ont permis effectivement l'essor et les pouvoirs d'achat qui étaient associés, notamment auprès de la classe moyenne et des familles. Il faut dire qu'on a plutôt été dans une logique un peu de paupérisation de la classe moyenne ces derniers temps. Donc c'est sûr qu'on voit qu'il y a un peu un désaveu de la part de cette clientèle jeune qui n'a pas non plus, on l'évoquait parfois, l'initiation peut-être faite par les pouvoirs publics, mais elle est aussi surtout faite par les familles. Donc à partir du moment où c'est plus compliqué d'accéder au sport d'hiver pour des familles, parce que ça représente des budgets qui sont assez conséquents, on sait que derrière les enfants seront moins initiés. Donc il y a tout ce sujet du renouvellement de ce sport.
Alors ce qui inquiète les professionnels du ski et de la montagne, c'est non seulement cette baisse de la fréquentation, en particulier chez les plus jeunes, mais aussi cet enneigement pardon, qui est de plus en plus insuffisant. En 30 ans, Météo France a évalué la hausse des températures dans le massif alpin à 2 degrés. Et certains massifs montagneux de moyenne altitude ont perdu 30% d'enneigement en 30 ans. Il y a une inquiétude qui est forte, Emmanuel Georges, mais là encore, la situation est très variable d'une station à une autre.
Oui, tout à fait. Je pense que, enfin, vous faites référence à Météo France qui suit notamment au col de Porte à 1350 mètres d'altitude, donc en cette fameuse moyenne montagne, les hauteurs d'enneigement, et donc qui montre que sur les 50 dernières années, il y a eu une perte d'environ 50 cm de cette hauteur de neige. Donc évidemment, par rapport aux travaux du GIEC, on est avec cette évolution tendancielle sur une baisse des hauteurs de neige. Pour autant, et ça c'est évidemment un élément qui rajoute à la complexité, c'est que c'est très divers selon les contextes climatiques où on se trouve, les orientations, enfin tout un ensemble de variables. Pour autant, la tendance est plutôt à la baisse de la neige naturelle et surtout à la très forte variabilité à l'intérieur d'une saison ou entre les saisons.
Et par conséquent, certaines stations sont aujourd'hui gravement déficitaires, Vangelis Panagiotis, quand d'autres font au contraire des bénéfices extrêmement importants.
Oui, on a vu notamment avec l'émergence des palaces, hein, il y a de plus en plus de palaces qui sont situés maintenant dans les Alpes. On voit qu'il y a des destinations ou des stations comme Courchevel qui ont plutôt monté en gamme. Alors tout le monde a à l'esprit les hélicoptères avec des Russes, etc. Forcément, ça a poussé la clientèle historique, qui était plus nationale, à aller sur d'autres typologies de stations. Et donc on voit qu'on a de plus en plus un déséquilibre entre des stations qui ont pu, par le fait d'être un peu plus premium, continuer à investir dans leur infrastructure, dans l'expérience qu'elles proposent pendant le séjour, et puis d'autres destinations pour lesquelles c'était plus compliqué. Il faut aussi garder à l'esprit que la création des stations de ski s'est fait aussi sur un modèle de développement immobilier, hein, où beaucoup de gens sont propriétaires de ce qu'on appelle les lits froids, hein, c'est-à-dire votre appartement au ski que vous utilisez que quelques semaines par an, et donc tout ça amène des cycles en termes d'investissement, et donc à un moment donné, quand vous arrivez au bout d'un cycle, si vous n'avez pas fait les réserves nécessaires pour réamorcer quelque chose, on voit qu'on peut peut-être baisser un petit peu en termes de qualité d'équipement. Et sur les 10 dernières années, la grande gagnante en Europe, ça a plutôt été l'Autriche. Hein. C'est pour ça qu'elle défend, entre guillemets, un peu bec et ongle sa position, qu'elle a plutôt grignoté un peu à droite et à gauche sur la France et sur la Suisse.
Il faut pouvoir rentabiliser des investissements qui peuvent être considérables, notamment dans la neige de culture. Ça, c'est un procédé, Emmanuel Georges, qui est à la fois très coûteux et très énergivore, donc aussi très contesté.
Disons que sur la question du changement climatique, je pense qu'il y a eu beaucoup de controverses, notamment au début des années 2000. Aujourd'hui, les stations, elles le disent, je dirais, font avec ces aléas météorologiques et le changement climatique. Une des réponses d'adaptation, c'est de produire de la neige de culture, ce qui veut quand même dire avoir les conditions de température propice à la production de cette neige, qui n'est pas toujours le cas, et puis avoir la disponibilité en ressources, en eau et en énergie, ce qui évidemment est critiqué par un certain nombre d'acteurs, notamment associatifs autour de la protection de l'environnement, mais en tout état de cause, cette production de neige est une des réponses de quasiment la plupart des stations aujourd'hui sur la partie domaine skiable. Parce que je pense que ce qui est aussi à rappeler quand on parle des stations, c'est que c'est une échelle très globale et qui renvoie à un écosystème d'acteurs très variés, avec des positions, des logiques et des rentabilités de ces acteurs très différentes. Et donc, on dit souvent la rentabilité d'une station, mais c'est, je dirais, à creuser, à ouvrir la boîte noire pour aller regarder précisément acteur par acteur.
Alors, il y a quand même eu des scandales autour, par exemple, de cette livraison en février par hélicoptère, en février dernier, de 50 tonnes de neige dans la station de ski pyrénéenne de Luchon-Super-Bagnères. On voit qu'aujourd'hui, c'est assez mal accepté. Et puis, on peut aussi imaginer, Emmanuel Georges, qu'il y ait des conflits d'usage autour de l'eau. Est-ce que ça, c'est un risque?
Alors, il y a eu des travaux, je dirais, de quantification, en tous les cas d'état des lieux, qui avaient été menés il y a déjà quelques années sur ce que représentait cette neige de culture en termes d'eau. Il y a eu, vous l'avez rappelé, des épisodes ponctuels assez défavorables en termes d'image de marque, mais aussi en termes de conflits, des événements qui ont pu montrer qu'on pouvait avoir des conflits à gérer autour de la ressource en eau entre l'eau pour la production de neige de culture versus l'eau pour l'eau potable. En tout état de cause, c'est quand même une question qui est à traiter à l'échelle adéquate, notamment celle du bassin versant dans lequel les stations sont insérées pour avoir, je dirais, une vue la plus objective possible. Et puis de faire de la prospective aussi sur les années à venir en termes de consommation.
Alors face au manque de neige, certaines stations sont bien forcées de se reconvertir. C'est le cas de la station de Ventron dans les Vosges qui a décidé d'arrêter son activité de ski alpin et de se tourner vers le tourisme estival. Ça, c'est une stratégie qui pourrait s'avérer payante, Vangelis Panayotis ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, parfois on se pose la question de quel est le monde de demain avec la pandémie qu'on vit actuellement et les deux confinements qu'on a eu. En réalité, le monde de demain existait déjà hier. Il s'agit surtout d'une accélération des tendances qui étaient déjà observées. Je pense qu'on, pour revenir rapidement sur ce qui a été dit précédemment, qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficilement acceptable ces sujets qui sont liés au développement durable, à l'écologie. Je pense qu'il y aura une attention de plus en plus grandissante autour de ces thèmes-là, et c'est pas une bonne image. En tout cas, il faudrait faire attention. Mais la montagne, enfin, les gens recherchent des expériences diverses. Donc la montagne est clairement quelque chose d'intéressant l'été, pour contrebalancer, on va dire, peut-être la plage qui était plus traditionnelle. On voit que le milieu rural, que la montagne, que des expériences plus riches de sens sont maintenant attendues de la part des voyageurs, des touristes. Et je pense que la montagne a son épingle à tirer du jeu. On voit que tout ce qui est le tourisme d'itinérance, tout ce qui va être les randonnées, tout ce qui est le cyclotourisme, on voit qu'on a une émergence de toute cette diversification autour du tourisme.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer cette transition vers le tourisme estival, Laurent Tissot, à cause justement du caractère particulièrement peu écologique de la création de neige de culture ?
Oui, bien sûr que on peut être d'accord avec ça. Peut-être qu'il faut aussi replacer quand même cette désaffection quand même relative pour les stations d'hiver, par le fait que nous assistons depuis 20-30 ans à une mondialisation du tourisme. Vous pouvez vous payer une semaine à Bali en hiver à des prix, tout frais compris, qui sont même inférieurs à ce que peut offrir une station de ski dans les Alpes. Donc là, il y a quand même, pour le consommateur, un choix, une ouverture des possibles qui sont immenses, et on va préférer peut-être une destination exotique à rejoindre Tante Clara et Oncle Fernand dans la station de Megève ou ailleurs.
Et en même temps, dans le contexte du coronavirus, Laurent Tissot, les Français ont délaissé les plages bondées pour favoriser la moyenne montagne. Est-ce que ça ne va pas entraîner quand même un changement de comportement ?
Absolument, et c'est là où je voulais en venir, c'est que maintenant, avec ce virus, on a peut-être un retournement et une mise en question de ces pratiques touristiques qui ont quand même été poussées par les grands organismes touristiques, les grandes agences touristiques, les compagnies aéronautiques, les low-cost, et peut-être là, on va assister à un grand chamboulement de cette façon de voir le monde et le tourisme. Il y a plein de compagnies aériennes qui sont au bord de la faillite, même des low cost. Donc là, bien sûr que c'est, comme on l'a dit, c'est difficile de prévoir l'avenir, mais peut-être qu'il y aura certaines coupures par rapport au passé, dès lors que tous les possibles ne sont pas possibles. C'est-à-dire qu'il y aura des fermetures d'offres, ce qui fait qu'on va se reporter sur la montagne telle qu'on peut l'admirer. Alors, et en jouir l'été.
Sans parler encore de l'industrie mondiale du tourisme, Vangelis Panayotis, est-ce que il pourrait y avoir ce changement de comportement du côté des stations de sport d'hiver, davantage de Français qui iraient à la montagne pour profiter aussi de randonnées par exemple, et est-ce que là l'enjeu, ça n'est pas du coup de convaincre les touristes étrangers ?
Oui, alors, mais c'est une tendance qui était déjà un peu en place. On voit le nombre de stations de montagne qui se sont équipées de piscines, de parcs aqualudiques, et qui ont essayé de diversifier les types d'expériences, parce qu'en réalité, les gens sont moins attirés par des destinations ou un séjour qui va être centralisé sur une seule expérience. Et là, en l'occurrence, ça pourrait être le ski. Ils ont envie, effectivement, de faire un séjour à la montagne, mais peut-être aller skier deux jours ou aller faire des randonnées, prendre une journée pour s'occuper de soi, donc il faut aussi des équipements peut-être de spa ou de bien-être. Il faut penser aussi, s'il y a des familles, il y a des éléments pour les enfants. On voit qu'il y a beaucoup de parcs animaliers, c'est très bien pour la préservation de la nature, qui sont mis en avant. Et c'est une évidence qu'en France, on a quand même un très beau domaine de montagne, notamment avec les Alpes, mais aussi les Pyrénées et les Vosges. Et je pense que, comme pour le reste, on continuera à attirer les clientèles étrangères, notamment européennes.
Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des obstacles à cette reconversion des stations, reconversion vers le tourisme estival qui semble assez nécessaire, Emmanuel Georges ?
Je ne parlerai pas de reconversion. Je voudrais revenir sur cette question de la diversification de l'offre et de l'attractivité de la montagne l'été. Alors bien sûr, il y a les chiffres absolument exceptionnels de cet été en montagne, mais jusqu'à présent, c'était un vrai challenge de... dirais, de faire venir les gens et les touristes en montagne, notamment en station. Donc, il y avait un vrai travail. Cette diversification, elle est très ancienne, notamment dans certains massifs. Je pense au massif des Alpes, en particulier la région ex-Rhône-Alpes a été un peu figure, fait figure de pionnière en lançant des politiques de soutien de la diversification de l'offre. Et l'objectif, c'était bien d'anticiper l'évolution de la demande, mais aussi ces questions d'aléas météo pour offrir une expérience. Aujourd'hui, on dit une expérience pour ces touristes qui soit à la fois la découverte de la montagne, des pratiques sportives ou ludiques, découverte du patrimoine environnemental ou agricole, donc et culturel. Je pense que c'est toutes ces ressources-là qui sont en débat dans le fait de construire une offre touristique. Et je pense que quelles que soient les stations, qu'elles soient grandes, moyennes et ou potentiellement en reconversion vers autre chose, ce sont des stratégies qu'elles mettent en place et qui sont importantes à mettre en place à des échelles pertinentes. Tout à l'heure, on parlait de centres aqualudiques ou d'autres équipements. Ces équipements-là, ils coûtent cher en termes d'investissement, de fonctionnement, et ils ne peuvent se déployer qu'à des échelles de territoire qui soient cohérents, dans lequel on trouve des stations, mais où se joue la complémentarité entre les sites.
Mais c'est là où peuvent intervenir des querelles de pouvoir et des divergences de stratégie à l'échelle locale. C'est ce que vous pointez, Emmanuel Georges, dans un article paru dans The Conversation.
Oui, disons que ça ouvre sur cette question de la gouvernance, c'est-à-dire que très souvent l'hiver, et on le voit encore, vous allez au ski à Chamonix, à Megève, donc dans une marque qui renvoie à la saison hivernale. Quand vous êtes en été, en montagne, vous êtes plutôt dans une destination beaucoup plus large, qui amène à travailler un périmètre plus vaste, avec un écosystème d'acteurs plus vaste. Et donc c'est toute cette question de finalement partager avec l'ensemble des acteurs une même vision du territoire, de son développement touristique, pour arriver à mettre en œuvre une stratégie qui soit pertinente pour le territoire. Et forcément, ça amène, si ce n'est des querelles, je dirais en tous les cas des visions qui peuvent être opposées, plus ou moins fortement.
Alors avec le réchauffement climatique et le coronavirus, ce n'est pas seulement la filière ski, mais toute l'industrie mondiale du tourisme qui est bouleversée. Après une année catastrophique, le secteur va-t-il réussir enfin à sortir la tête de l'eau? On en parle dans un instant.
Quand une femme vous trouble l'âme, on la met à la mer. Maintenant, madame, nouveau programme, on va au sport d'hiver. Et dans un charmant décor, où la neige a des tons d'or, l'amour est plus tendre quand on bat un beau record. Et sur les versants glacés, qu'il fait bon de s'enlacer, et puis de s'attendre pour mieux s'enlacer. Ah, quel délice lorsque l'on glisse, quelle émotion, quelle drôle de sensation. Avec aisance, on se balance, on est heureux, on se croirait aux cieux. Un faux pas et crac patatras, on s'allonge en riant aux éclats. La neige douce vous éclabousse, c'est merveilleux de faire du ski à deux. La neige blanche en avalanche verse ses gros flocons. Et la tempête fait sur nos têtes d'immenses tourbillons. Alors sous un sapin blanc.
Ski à deux, une chanson d'Alibert qui date de 1938. Suite d'Entendez-vous l'écho sur France Culture. Laurent Tissot, Emmanuel Georges, Evangelis Panayotis sont toujours avec nous pour parler, à l'approche des vacances d'hiver, des bouleversements du tourisme mondial. Alors jusqu'ici, l'essor du tourisme avait résisté aux crises économiques et climatiques. Malgré la montée des exigences environnementales, rien ne semblait pouvoir arrêter cette expansion, Evangelis Panayotis.
Oui, alors on parle souvent d'industrie bénie des dieux parce que effectivement elle connaît une croissance quasiment linéaire depuis plusieurs décennies. Elle a résisté aux guerres du Golfe, première, deuxième, aux attentats du 11 septembre, au premier épisode de SRAS, hein, qui avait commencé en 2001, 2002, 2003, etc., aux attentats du Bataclan, etc. Bon, en tout cas, c'est une industrie qui a énormément de résilience parce qu'il y a une réelle envie quasi anthropologique des gens de s'ouvrir sur le monde, de partir à la rencontre d'expériences, de cultures, de paysages, de gastronomie, de terroirs. C'est sûr que cette industrie-là a des ressorts de résilience qui sont énormes, et on verra, j'en suis convaincu, dans quelques mois, quelques longs mois, qu'elle aura réussi à retrouver ses lettres de noblesse. Elle le refera pas forcément de la même façon. Je pense que ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, et c'est évidemment trop tôt pour le savoir, c'est est-ce que ce moment de pause a été suffisamment long pour que on change durablement certaines habitudes qu'on avait. Est-ce que les charters qui vont d'Europe vers l'Asie, par exemple, on prend un exemple pour la Thaïlande, ou de l'autre côté de la Méditerranée sur l'Afrique du Nord, est-ce que ce tourisme de masse, qui aujourd'hui est de plus en plus décrié, va revenir dès l'été prochain? Je pense que c'est encore des points d'interrogation, mais les gens continueront de voyager.
Le nombre de touristes dans le monde a chuté de 70% entre janvier et août, et cela malgré le rebond de l'été. Ce qu'on peut dire, c'est que l'industrie du tourisme connaît le choc le plus grave de son histoire. Laurent Tissot, c'est plus de 8 fois la perte qui avait été enregistrée après la crise financière mondiale de 2009. Ça, c'est ce que dit l'Organisation mondiale du tourisme. Est-ce que c'est un choc qui va avoir un impact sur les comportements? C'est effectivement toute la question, Laurent Tissot.
Alors oui, disons que moi je dirais quand même que peut-être au-delà de la puissance de cette activité, de ces industries qui sont indéniables, il faut peut-être rappeler que le tourisme est quand même un secteur extrêmement fragile, n'est-ce pas? Le moindre attentat terroriste fait qu'on les hôtels se vident en deux jours. Alors peut-être que ces effets durent une semaine ou 10 jours, et après on repart. Là, nous avons quand même une situation où ça dure depuis bientôt une année. Donc la durée de cette crise, alors, va peut-être induire des effets. Moi, je pense que les charters, les compagnies aériennes vont repartir sur les mêmes bases. Peut-être il y aura des protections, voilà, des mesures qui seront prises dans les aéroports et dans les avions, mais je ne vois pas comment certains pays qui ont tout misé sur le tourisme, en Asie, en Afrique, ne vont pas mettre la pression pour nous dire « mais revenez ». Donc là, je pense qu'on va vers une situation qui sera peut-être plus ou moins identique à celle que nous avons vécue, mais on verra bien si le secteur touristique a l'effort suffisante et les pressions suffisantes pour amener un retour à la normale ou au passé. Je n'y crois pas trop.
Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre tout de même à une diversification dans des pays qui ont effectivement énormément misé sur le tourisme? Alors, je pense à la situation en Grèce, puisqu'elle est particulièrement préoccupante. Les recettes du tourisme ont chuté de près de 90%, alors qu'en Grèce, le tourisme, c'est 20% du produit intérieur brut. Est-ce qu'il y a des pays, Vangelis Panayotis, où on peut s'attendre à une diversification de l'économie pour ne pas dépendre de la prochaine pandémie?
Oui, alors de toute façon, cette dépendance au tourisme d'un point de vue économique, c'était pas forcément un choix dans l'absolu. C'était ce qu'ils ont pu développer sur la base de leur patrimoine naturel, que ça soit des plages, que ça soit des montagnes ou autres, et aussi de pouvoir offrir des niveaux de rapport qualité-prix pour ce qu'on appelle les clientèles les clientèles outgoing, c'est-à-dire les Français, les Allemands, les Anglais qui vont en Espagne ou qui vont en Afrique du Nord. Donc ça, c'était effectivement des pays non industrialisés qui ont misé sur leurs attraits naturels pour développer une forme d'économie. Après, c'est pas aussi évident, parce qu'on parle de la Grèce, qui est un pays qui est en zone euro, donc qui peut plus faire de dévaluation compétitive de sa monnaie. Hein. À l'époque de la drachme ou de la pesetas ou de la lire italienne, on avait chaque année, vers le mois d'avril, au moment où les gens commençaient à préparer leur voyage pour l'été, une dévaluation de ces monnaies-là pour rendre mécaniquement plus attractif les offres touristiques qu'ils proposaient. en ce qui concerne les pays européens, c'est plus un outil qui va fonctionner, mais ils sont quand même sur le marché, un des marchés les plus forts en émetteurs de touristes. Donc je pense que même si on peut que leur conseiller de diversifier leur économie, le tourisme reviendra assez facilement. Vous savez, aujourd'hui, cette crise, c'est une crise de la mobilité. À partir du moment où vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas voyager. Il y a pas de tourisme. Elle est exogène, elle n'est pas économique. Le jour où la mobilité revient, sauf si on remet en cause le fait qu'on pourra bouger à l'avenir, je pense que les choses reprendront plus ou moins leur droit.
Mais en attendant, pour le secteur de l'hôtellerie, par exemple, la situation est absolument catastrophique. Écoutez Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, au micro de France Inter. Il expliquait le 20 octobre dernier que là où le groupe souffre le plus, c'est en Europe.
50% du groupe Accor est dépendant de l'Europe. En Europe, c'est la catastrophe. Et c'est la catastrophe, parce que vous l'avez encore vu ce matin avec l'Irlande et le Pays de Galles, c'est une totale incohérence entre les mesures prises entre les États de l'Union. On n'a aucune idée de ce qui se passe entre Berlin, Francfort, Milan, ce qui fait que pour le voyageur, c'est incompréhensible et donc il ne voyage pas. Donc il est grand temps, alors il paraît quelque chose qui s'appelle les affaires générales à la Commission européenne, qu'on mette au moins une procédure commune entre les différents pays, parce que si au moins on pouvait voyager au sein de l'Europe, en respectant les gestes barrières et l'évolution de cette deuxième vague, on va être capable au moins de rivaliser avec la Chine en termes de taille et avec les États-Unis. Donc la Chine est repartie exactement comme elle l'était avant le Covid, en l'espace de 9 mois. Ce qui est plutôt un bon signe pour nous tous, hein. Les États-Unis souffrent moins parce qu'ils ont 350 millions de clients dans un même territoire. L'Europe est l'endroit où on souffre le plus avec l'Amérique latine, c'est-à-dire Chili, Pérou, Colombie, c'est un désastre.
L'hôtellerie souffre en Europe, en particulier dans les grandes métropoles, à commencer par Paris, Vangelis Panayotis.
Alors, c'est sûr qu'on vit quelque chose de totalement inédit hein, pour notre secteur. On n'a jamais connu une situation comparable. Vous mentionnez les grandes métropoles, mais les grandes métropoles, elles vivent du mois de septembre au mois de juin, du lundi au vendredi, c'est-à-dire sur quasiment tous les jours qu'il y a sur ces deux bandes de calendaires, des clientèles à faire. Ce sont essentiellement des voyageurs d'affaires du lundi au vendredi qui viennent voir et leurs clients, et leurs entreprises, leurs collaborateurs, et qui viennent également participer à des événements, des grands salons, des foires, des expositions. Et donc c'est tout ce tissu économique qui est mis totalement à l'arrêt, puisqu'il est plus possible effectivement de pouvoir facilement se déplacer d'une part, mais aussi d'assister à ces grands événements-là. Donc ces hôtels, qui sont plutôt des hôtels d'affaires, sont aujourd'hui les plus sinistrés, alors que c'était parmi les plus dynamiques, on va dire en 2019, qui était une année quasiment record.
Et les difficultés de l'hôtellerie ont de lourdes conséquences sur l'emploi. Accor annonce 1200 suppressions de postes sur 18 000 en tout. Le groupe est sorti du CAC 40. Est-ce qu'il faut s'attendre, Vangelis Panayotis, à des fusions entre grands groupes hôteliers?
Alors, en réalité, depuis à peu près 5 ans, on était rentré dans une ère de consolidation au niveau mondial dans ce secteur. On pense à la première méga-fusion qu'il y a eu entre Marriott et Starwood. Et puis ensuite, on en a eu effectivement pas mal. Hein. Le groupe Accor a été aussi un des acteurs très actifs de cette consolidation. Il y a des pour et des contre. C'est-à-dire que à la sortie de cette crise, les groupes vont plutôt se retrouver dans une situation, en tout cas les grands groupes mondiaux, plutôt exsangues en termes de ressources. Ça a consommé beaucoup de cash, beaucoup de ressources, et donc ça va pas être simple de mener des acquisitions. Par contre, à l'inverse, il y a aussi peut-être besoin de trouver de nouveaux équilibres en termes d'économie d'échelle. Et probablement que certains acteurs vont trouver leur salut par le fait de pouvoir se regrouper et optimiser, rationaliser, rendre plus efficaces certains de leurs process, et pouvoir de cette façon avoir une nouvelle taille critique et pouvoir rebondir.
Alors l'hôtellerie souffre effectivement, mais des espoirs de reprise se dessinent, comme en Chine, Laurent Tissot, et l'espoir d'un vaccin pourrait permettre de relancer un petit peu l'activité.
Alors certainement, dès lors que depuis maintenant une vingtaine d'années, la clientèle qui compte, c'est beaucoup de promoteurs, d'organisateurs, d'opérateurs, c'est la clientèle chinoise. Et je peux le voir notamment en Suisse, où c'est une clientèle qui a beaucoup de moyens. C'est 300 euros par jour, les dépenses qu'ils entraînent. Donc voilà, il y a un marché immense. Et je pense que l'hypothèque est là, parce que si la clientèle chinoise se remet à voyager, il y aura peut-être un effet d'entraînement qui permettra, à ce que M. Panayotis a dit, de relancer cette clientèle clientèle d'affaires. Donc je pense que la question est là, c'est de savoir dans quelle mesure la Chine pourra, les Chinois pourront revenir en Europe.
Et alors ça va dépendre des tests, notamment l'un des enjeux pour le tourisme mondial, c'est la généralisation des tests antigéniques, parce qu'ils sont bien plus rapides à effectuer que les tests PCR, Vangelis Panayotis, notamment à l'aéroport.
Oui, alors c'est sûr que ça va permettre de redonner de la confiance et de la réassurance. Vous savez, ce secteur-là ne vit que parce que on a des conditions de réassurance et de stabilité. Après le 11 septembre, il a fallu qu'on redonne confiance aux gens de monter dans les avions. Et donc, on a installé tout un tas de dispositifs et de protocoles. Maintenant, on se pose plus la question. Hein. Tout qu'on prend l'avion, on passe sous le portique, on enlève notre ceinture, on fait toutes les mesures de sécurité. C'est devenu normal. Et d'ailleurs, depuis, le trafic aérien a explosé. Est extrêmement dynamique. Là, on va réapprendre maintenant avec des mesures sanitaires. Donc, on a une réassurance sur la sûreté. Maintenant, cette pandémie nous amène une réassurance sur le côté sanitaire, où il y aura probablement des choses qui vont durablement changer. On l'a vu également dans un autre secteur avec les crises de la vache folle, où la traçabilité alimentaire est devenue la norme et qu'il y a des choses qui ont évolué. Ça a pas détruit des industries, ça a juste permis de redonner de la confiance et de la réassurance. Et peut-être que le dernier pilier en termes de réassurance, dont on parle pas encore beaucoup, qui concerne plus les touristes de loisirs, sera aussi économique. On a vu avec la faillite de Thomas Cook en 2019.
L'agence de voyage britannique.
Ouais. Et on a vu les difficultés pour se faire rembourser ses billets d'avion avec les histoires de confinement, etc. Donc voilà, je pense que demain, le secteur se réinventera probablement autour de ces trois piliers de réassurance. Et puis si un jour, espérons pas, mais si un jour il y a encore d'autres menaces, je pense que le secteur trouvera la façon de réassurer les gens pour qu'ils puissent continuer à voyager en toute sécurité.
Alors il y a de nombreux pays et de nombreuses compagnies aériennes qui comptent sur les tests pour sauver la saison touristique. Les tests obligatoires, mais alors il y a aussi la technologie qui pourrait permettre de faciliter les contrôles grâce à une sorte de passeport sanitaire sur smartphone. Le président Xi Jinping a proposé de s'appuyer sur la technologie du QR code lors du dernier G20 pour relancer les voyages à l'étranger, mais ça semble assez difficile à mettre en œuvre, notamment à cause des usages détournés qui pourraient en être faits à des fins de surveillance. Donc il y a à la fois des espoirs autour de la technologie et de la méfiance, Laurent Tissot.
Oui, c'est toujours comme ça avec la technologie. Il y a les deux faces, une face de Janus, la face positive et la face négative. Mais il est vrai que, bon, d'un point de vue historique, si on se place à long terme, même au début du tourisme, c'est des problèmes qui sont récurrents. Et c'est vrai que le tourisme a eu la faculté de les dépasser, d'introduire une technologie qui n'était pas forcément... on pense à l'aviation. Au début, l'aviation, on prenait des risques quand même dans les années 50-60. Il y avait beaucoup d'accidents et la technologie s'est amélioré. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas être un technophile sans être conscient qu'il y a des faces négatives, mais je pense qu'on peut être positif. Là, on entre dans une ère informatique et on n'a pas dévoilé tout ce que ces technologies pouvaient nous offrir. Donc, je pense que peut-être le président chinois n'a pas complètement tort. Alors, bien sûr, avec les réserves d'usage, c'est de savoir si on va pas nous contrôler 24 heures sur 24 et nous dicter nos goûts.
L'association du transport aérien international a aussi développé une application justement pour s'informer, qui permet de s'informer sur les formalités sanitaires à accomplir. Et l'objectif à terme, c'est d'en faire un passeport sanitaire. Mais ce qu'on peut se demander, c'est si le tourisme n'aurait pas intérêt en réalité à se régionaliser, à la fois pour des raisons économiques, puisque les vols long courriers vont mettre un peu de temps à retrouver leur rythme d'avant la crise, on l'a compris, et puis évidemment pour des raisons écologiques, Vangelis Panayotis.
Oui, alors sur le volet de la régionalisation économique, vous savez, en France, le tourisme, ça pèse entre 7 et 8% du PIB. Donc il ne s'agit pas d'une industrie anecdotique. Hein, et on parle d'un pays du G7, qui est siège permanent à l'ONU, qui est industrialisé. On peut faire les mêmes constats pour la Chine et pour les États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque des attentats du Bataclan, les chaînes d'information américaines s'en sont données, entre guillemets, à cœur joie pour expliquer que Paris était un terrain de guerre et qu'il fallait surtout pas y aller. Je pense que l'effet que ça a eu de garder les voyageurs américains sur le sol américain, et donc garder cette régionalisation de leurs touristes chez eux, c'était peut-être pas l'essentiel, mais c'était pas totalement étranger. On voit qu'il y a des enjeux géopolitiques qui dépassent le simple secteur du tourisme. Hein. On parlait de ces sujets de passeports digitaux et donc tout ce qui va être lié par rapport à ces enjeux-là. Aujourd'hui, ce qui est en plus intéressant, c'est que les touristes ont envie de redécouvrir un tourisme plus de proximité, plus accessible. On sait qu'on va voyager probablement différemment, de façon plus répétée, parfois, ou voire même de façon plus prolongée. Hein. On ne sait pas encore l'impact qu'aura le télétravail. Aujourd'hui, on sait qu'on peut travailler à distance. Donc, est-ce que on va pas avoir on parlait de staycation, désolé pour l'anglicisme, mais on va avoir probablement des formes équivalentes également pour les vacances. Vous partez en vacances deux semaines, pendant les deux semaines, vos enfants sont dans le Kids Club, et puis vous avez une semaine où vous allez travailler dans de bonnes conditions, et puis une semaine où vous passerez les vacances. Donc il y aura probablement des changements durables dans les usages.
Mais le problème de la régionalisation se situe peut-être du côté de l'hôtellerie haut de gamme qui accueille peu de clientèle locale, Laurent Tissot, et aussi on peut penser à la consommation de produits de luxe. Là encore, on sait que par exemple en France, c'est en grande partie les touristes chinois qui sont les plus forts consommateurs.
Oui, mais c'est un problème parce que qu'est-ce que ça veut dire la régionalisation pour un client chinois? Moi, je ne sais pas comment ils se représentent. Ils ont des tours opérateurs qui leur offrent Rome, Paris, Londres, le Cervin, Vienne et on retourne. Donc, ce sera peut-être un gros travail aussi des opérateurs et dans l'offre. Parce que je pense que au niveau régional, on est prêt. Et si on demande des adaptations, on le fera. Mais si les grands opérateurs chinois, coréens ou japonais décident qu'un tour de une semaine, ça passe par telle ville et par telle région, pour les régions, c'est difficile de s'imposer. Pour moi, la solution est là. Parce qu'il y a une telle population, une telle mobilité qu'il faudra forcément étaler, éparpiller un peu ces flux qui posent des problèmes dans des villes, à Paris, à Rome, à Venise, on discute pas. Donc il faudra trouver des solutions qui permettent peut-être de faire découvrir à ces touristes d'autres choses que les grands poncifs, les grandes icônes, mais qu'on leur impose. Moi, j'étais en Chine, on m'a amené une ville que je connaissais pas, et j'étais très content. J'avais jamais entendu parler de cette ville qui était magnifique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup. Et en France, le paysage et la campagne française offrent énormément de beauté, mais qui ne sont pas connus, mais parce que peut-être les préfets, les opérateurs régionaux se heurtent à de grands opérateurs internationaux qui ne voient pas l'intérêt d'amener des Chinois dans des endroits peut-être plus inconnus. Donc là, il y a peut-être un effort à faire et des pressions à faire sur ces grands opérateurs qui peut-être ne jouent pas toujours un rôle, qui vont de découverte. Ils font découverte.
Vous croyez que c'est possible, ça, Laurent Tissot, de développer davantage ce tourisme dit durable qui est encore marginal et de revenir, et je vous laisserai finir là-dessus, à l'émancipation par le tourisme plutôt qu'à la consommation?
Oui, moi j'en suis certain. Mais bien sûr qu'il y a des efforts à faire de ce point de vue-là. Peut-être il y a une répétition, les opérateurs aiment répéter les choses parce que ça marche, donc il n'y a pas de raison de changer. Mais peut-être avec ce Covid, on sera amené à amorcer des réflexions qui vont dans ce sens-là. C'est pas simplement des offres, mais il y a aussi des consommateurs. Et peut-être le consommateur est prêt à découvrir des choses, mais si on ne lui montre pas, il y a pas de raison qu'ils les connaissent, à moins qu'ils fassent le travail lui-même.
Un dernier mot, Evangelis Panayotis.
Oui, alors déjà, vous savez, 90% des touristes en France, ce sont les Français et les Européens. Donc quand on parlait tout à l'heure du luxe, il s'agit malgré tout d'une niche en termes de volume. À travers le temps, les gens ont voulu donner du sens à leur acte d'achat. Au moment où le tourisme s'est industrialisé, on a voulu, comme un marqueur social, consommer des biens et des services touristiques. Aujourd'hui, donner du sens à son acte d'achat dans le tourisme, c'est évidemment évidemment de nouvelles valeurs, et je pense que l'écologie et le local sont les grandes tendances des années à venir.
Un grand merci à tous les trois, Laurent Tissot, Emmanuel Georges et Evangelis Panayotis, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On mettra les références des articles qui nous ont aidés à préparer cette émission sur la page d'Entendez-vous l'écho sur franceculture.fr. C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Jacques Azubert. La semaine prochaine, on se lance à l'assaut du CAC 40. On reviendra sur l'histoire du géant Alstom et de BNP Paribas et enfin de Danone. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.